Bonjour André Azoulay.
Bonjour Frédéric Rivière.
L'UNESCO élira la semaine prochaine son nouveau directeur ou sa nouvelle directrice générale. Vous êtes candidate à ce poste. L'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Pourquoi voulez-vous diriger cette institution ?
C'est une institution qui a, je crois, un mandat qui pourtant date de 1945, de l'après-guerre, mais qui est tout à fait aujourd'hui pertinent et moderne. Parce qu'on s'aperçoit qu'on passe, et ici à RFI, vous en parlez beaucoup, on passe beaucoup de temps dans le monde à gérer des crises, à les gérer plus ou moins bien. On a aussi beaucoup d'échecs dans la gestion des grandes crises. Et pour prévenir ces crises, ce qu'il faut, c'est travailler justement sur le temps long, sur la culture, sur l'éducation, sur les sciences, sur les droits de l'homme, les droits des femmes, la liberté. Et c'est tout cela que porte l'UNESCO. Donc aujourd'hui, dans ce monde qui connaît ces grands défis démographiques, sécuritaires, écologique, tout passe par l'éducation et la culture. Donc cette candidature, c'est une candidature de la France pour renforcer, soutenir cette organisation qui en a besoin.
Vous dites que l'UNESCO a été marginalisée et que par conséquent, elle s'est éloignée de ses missions fondamentales. De quoi vous parlez quand vous dites ça ?
Le risque qu'on voit de plus en plus ces dernières années, c'est que certains débats très politiques que nous n'avons pas su collectivement résoudre ailleurs, au Conseil de sécurité, par exemple à New York ou ailleurs, se retrouvent au sein des débats de l'UNESCO.
Vous parlez par exemple du conflit arabo-palestinien, oui. Arabo-israélien.
La question de la question de Jérusalem, par exemple, à travers le patrimoine, mais pas seulement. Entre le Japon, la Corée, la Chine, des questions mémorielles très fortes qui n'ont pas été résolues entre ces pays, qui prennent une place très importante au sein des débats de l'UNESCO, ce qu'on appelle la politisation outrancière ou très forte, qui aujourd'hui a pris une place démesurée alors qu'il y a une urgence éducative, alors qu'on sait très bien qu'on ne résoudra pas nos problèmes sans passer par les patrimoines, par la diversité, encore une fois par l'ensemble des missions de l'UNESCO. Et il ne faut pas que ces questions-là viennent faire de l'ombre à tout le reste, capter toute l'énergie de cette organisation qui est, encore une fois, unique.
Vous auriez donc, entre autres, on va parler de ce qu'on peut appeler votre programme, mais vous auriez, entre autres, pour ambition de dépolitiser l'UNESCO ?
Les êtres qui sont à la table de l'UNESCO, ce sont des États. Donc, par nature, ils sont politiques. Ouais. Quand on touche aux questions de patrimoine, on touche à l'histoire, on touche à l'identité, donc c'est toujours politique. Donc, je ne crois pas qu'on puisse avoir d'ambition de dépolitisation. En revanche, on peut faire en sorte de donner moins de place à ces sujets où simplement des résolutions viennent devant les organes de gouvernance et on compte les amis et les ennemis, mais au contraire faire travailler, même autour de ces questions-là, tous ceux qui sont de bonne volonté. Et il y en a.
Alors, je le disais, donc une candidature à l'UNESCO, au fond, c'est un peu comme une campagne électorale. Hein. On défend un programme, un plan d'action. Et il y a un sujet, parmi d'autres, qui vous tient particulièrement à cœur. Vous l'avez d'ailleurs déjà évoqué à plusieurs reprises. C'est la protection du patrimoine. Qu'est-ce que peut faire l'UNESCO dans ce domaine ? Je sais que, par exemple, vous vous étiez engagé en tant que ministre de la Culture pour la défense du patrimoine en Afghanistan ou au Mali. On voit bien combien ça peut être difficile en Afghanistan. Quel est le pouvoir de l'UNESCO dans ce domaine ?
En fait, il est énorme et l'UNESCO, sur ce plan, a eu vraiment une action que je trouve remarquable. D'abord pour éveiller la conscience mondiale sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire des destructions délibérées du patrimoine mondial de l'humanité. Parce que derrière ces destructions, il y avait une volonté de refaire l'histoire, de détruire la diversité et du coup de conditionner l'avenir. Donc c'est très important déjà de faire comprendre, d'alerter. Et grâce à cela, grâce à cette action de l'UNESCO d'alerte, il y a pu avoir une stratégie internationale. La France y a participé grâce au président, il faut vraiment lui rendre hommage, le président Hollande. Mmh. Et le président Macron a dit qu'il continuerait dans ce sens avec une vraie stratégie que nous avons eue avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture. Et l'UNESCO a aussi une capacité d'expertise qu'elle met au service au moment de la reconstruction, au moment des mises à l'abri. Au Mali, on l'a vu, au moment où la paix a commencé à revenir, eh bien l'UNESCO a contribué au retour des manuscrits, à la reconstruction des mausolées qui avaient été détruits. Et c'est un impact énorme pour la fierté des Maliens, pour leur dignité et pour le retour à la paix.
Vous souhaiteriez également mettre l'accent sur l'égalité entre les sexes et pour ça, utiliser le levier de l'éducation ?
L'éducation, encore une fois, l'éducation, la culture, la science, c'est cette transversalité qui permet de donner plus de pouvoir aux femmes et d'enfin continuer à travailler pour l'égalité des droits à travers l'éducation. Parce que encore aujourd'hui, même si beaucoup de progrès ont été faits, encore aujourd'hui, ce sont plus souvent les filles qui sont exclues dans certaines régions de l'éducation. Donc évidemment, par l'éducation, on peut agir de façon très forte, mais par la culture aussi, parce que la culture, c'est la représentation, c'est l'image, c'est dire ce qui est possible, donner envie, par les sciences aussi, montrer qu'il y a des femmes scientifiques exceptionnelles, montrer l'exemple, et l'UNESCO peut faire cela.
Est-ce que vous avez un plan d'action particulier, spécifique pour l'Afrique ?
Pour l'Afrique, là aussi, il existe déjà, l'UNESCO fait déjà beaucoup de choses, et c'est une évidence qu'il faut continuer, parce que l'Afrique, c'est la jeunesse du monde, c'est l'avenir pour demain, et l'Afrique, c'est encore une fois, c'est l'urgence éducative qu'on connaît, mais une urgence éducative où s'inventent des solutions. C'est ça qui est très intéressant aussi en Afrique. C'est pas uniquement importer des solutions d'ailleurs sur l'éducation, mais c'est aussi travailler avec le digital, les nouvelles possibilités qui existent aujourd'hui, sur lesquelles on peut vraiment faire avancer ce continent et rester très présent sur le terrain.
Alors vous n'êtes pas la seule candidate ou candidat à la direction générale de l'UNESCO. On lit qu'il y aurait comme une forme de bloc des pays arabes qui estimeraient que leur tour est venu de diriger cette institution. Est-ce que oui ou non, il y a, face à vous, un bloc arabe ?
De quoi parle-t-on ? Aujourd'hui, il y a 4 candidatures arabes. Donc on ne peut pas vraiment parler de bloc. Il y a des candidatures venant des pays arabes, comme il y en a qui viennent de la Chine, du Vietnam, d'Azerbaïdjan. Donc il y a des candidatures qui viennent du monde entier. Il y a une légitimité à chacune de ces candidatures. Je ne crois pas qu'il faille ni en privilégier selon l'origine géographique. Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas le passeport, ce n'est pas la couleur de peau, ce n'est pas non plus la religion, c'est le projet. Le projet pour l'UNESCO, ce qu'on veut en faire demain, la capacité à emmener cette organisation plus au cœur de la gouvernance mondiale, de l'emmener à répondre aux défis de la jeunesse de demain. Et ça, encore une fois, c'est pas une question d'origine géographique.
Oui. L'un de vos concurrents qui est présenté comme les plus sérieux, c'est le Qatari Ahmad Al-Khawari. Il a été, comme vous, ministre de la Culture. Il a été ambassadeur du Qatar en France. Et il veut faire de l'UNESCO un rempart contre le terrorisme. Qu'est-ce que vous pensez de cette candidature et de cette intention affichée en faire un rempart contre le terrorisme venant d'un représentant du Qatar ?
Moi, je ne porte pas de jugement sur les autres candidatures et sur l'endroit du monde où elles viennent. Chacun est légitime à défendre un projet. Après, ce qui est très important, je crois, pour l'UNESCO, au-delà des mots, c'est les valeurs et c'est la cohérence entre les valeurs de l'UNESCO, qui sont des valeurs universelles, de respect de l'autre, de connaissance, de construction de la paix. Ce sont des valeurs aussi morales. C'est une cohérence entre ces valeurs, les valeurs de l'UNESCO, le parcours de ceux qui veulent l'apporter et ce qu'ils ont mis en pratique. Je crois que c'est ça qu'il faut juger et chacun portera le jugement sur les différents candidats. Ce sont aux États qui votent, 58 États, autour du conseil exécutif de l'UNESCO de le faire.
Ce que vous dites, il faut s'interroger sur la question de savoir si le Qatar porte ces valeurs-là.
Chacun des candidats. Je crois que c'est ça le vrai débat.
La France les porte à vos yeux.
La France les porte, l'Europe les porte, ce n'est pas la seule. Le monde entier a vocation à les défendre, mais il faut le faire avec sincérité, avec une preuve, je dirais, d'expérience et aussi de projet.
Est-ce que ça vous agace si on dit que vous êtes la candidate de François Hollande ?
En tout cas, François Hollande m'a fait confiance et je lui en suis reconnaissant. Aujourd'hui, je suis la candidate qui porte un projet soutenu par la France dans son ensemble et donc par le nouveau président de la République également. Et c'est une élection. Donc c'est une élection avec de nombreux candidats, de nombreux votants. Rien n'est fait, rien n'est joué. Mais j'étais très fière d'avoir le soutien de la France et que la France s'engage pour l'UNESCO. Alors que le siège de l'UNESCO est à Paris, ça me semblait très important.
Merci Audrey Azoulay.
Merci à vous.